Je me réjouis toujours pour l'évangile de Luc, que l'on étudie depuis quelques mois maintenant. C'est, en tout cas pour moi, un festin perpétuel. Et chaque fois, les textes me semblent toujours tellement riches. C'est difficile d'en faire le tour. On est arrivé dans l'évangile de Luc au chapitre 12 et je vous propose de lire et de rester attentif au verset 22 à 32. Luc chapitre 12, verset 22 à 32. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier. Et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison vous vêtira-t-il, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde et qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ce texte ici, ces paroles, le Seigneur les a données en Judée. Il est en Judée depuis quelques jours, quelques semaines, et il a eu un entretien chez Marthe et Marie, de Béthanie, mais on sait, d'après l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, que Jésus a déjà donné ce sermon lorsqu'il était dans le nord, en Galilée. Donc il a donné ce sermon-là en Galilée, et puis il l'a donné maintenant dans le sud. Et je pense que ça fait partie de son enseignement régulier sur la vie du croyant. Il s'adresse ici à ses disciples, au verset 22, Jésus dit ensuite à ses disciples. Et le thème général de ce chapitre, c'est « Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. » On vit dans une société dans laquelle les richesses abondent. Jamais la vie des hommes n'a été plus riche en tout, en confort, en soins médicaux. On a des assurances pour tout. On a des assurances contre le vol, contre l'incendie, contre les catastrophes naturelles, contre les accidents, contre le chômage, contre la maladie, contre la mort. On a des assurances pour tout. Qu'est-ce qui peut encore nous inquiéter? Et pourtant, nous vivons dans la société la plus angoissée qui n'ait jamais existé. La société la plus inquiète, société frappée par toutes sortes de phobies, de peurs, de paniques, de craintes, d'angoisses. Et il y a maintenant des spécialistes pour traiter tous ces troubles. L'agoraphobie, l'hypochondrie, peur de toutes les maladies qui peuvent traîner. La phobie des transports, l'avion, l'ascenseur, les bateaux. La phobie des animaux, je vous laisse imaginer les petites bêtes qui qui grimpent, qui volent. La phobie même des soignants, la phobie des blouses blanches, des médecins, des dentistes. Le Seigneur me préserve. On est une société hyper consommatrice d'anxiolytiques, de somnifères. On appelle ça à gogo. Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Et l'expression revient plusieurs fois dans ce chapitre 12, au verset 11, et il dit, quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. Au verset 22, il dit, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. Verset 25, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Verset 26, si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Verset 29, et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Verset 32, ne crains point. Ne crains point, petit troupeau. Jésus veut nous libérer de l'anxiété. Nos inquiétudes en tant qu'enfants de Dieu ont deux origines. La première origine, principalement, c'est l'ignorance. L'ignorance quant à la provision et au caractère de Dieu. Si vous ne savez pas combien Dieu prend soin de ses enfants, alors vous pouvez vraiment être inquiet dans ce monde. Mais si vous le savez. Et puis, l'autre origine, c'est l'incrédulité. Parce que on peut savoir et connaître la provision et le caractère de Dieu, le savoir dans notre tête, et pourtant toujours être inquiet parce qu'on ne croit pas, parce qu'on ne se repose pas sur ce que Dieu est et fait. Et ça, c'est le péché. Et il nous faut nous en repentir. Nous allons voir ce matin que l'anxiété, l'inquiétude, est le fruit d'une méconnaissance de Dieu et de ses plans. Et donc, il nous faut comprendre tout d'abord une vocation noble. Nous avons une vocation noble, plus noble. Il faut comprendre aussi une prérogative divine et puis enfin une provision paternelle. Voyons tout d'abord comprendre une vocation noble. Il dit ici, verset 23, « La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. » Il est en train de dire, il y a des choses dans la vie plus importantes que la nourriture et le vêtement. Quand on considère les boutiques qui remplissent nos centres-villes, on a du mal à le croire. Hein. C'est vrai, si vous retirez les magasins de vêtements et ce qui a trait à l'apparence, les coiffures et les bijouteries, si vous retirez encore les restaurants et tous les autres magasins alimentaires dans le centre de Toulouse, qu'est-ce qui reste? Ah, il reste la CLC. Pub. On travaille pour acheter des beaux habits pour pouvoir aller travailler. Et puis, on travaille pour manger, pour avoir des forces, pour travailler. Bon, il y a plus que cela. Jésus dit à ses disciples, en fait, il y a plus que cela. Nous avons une raison plus noble de vivre que simplement manger et boire et se vêtir. L'alimentation et l'habillement ne doivent pas devenir la préoccupation majeure de notre existence. En nous disant de ne pas nous inquiéter pour notre nourriture et notre vêtement, le Seigneur Jésus ne nous enseigne pas à rester oisifs en attendant que ces choses nous soient pourvues. Le christianisme n'encourage jamais la paresse. Par contre, il a voulu dire que tout en travaillant pour les nécessités de la vie, nous ne devions pas leur laisser prendre une trop grande importance. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Nous avons été choisis en Jésus-Christ afin que nous servions à la louange de sa gloire. Ça, c'est Éphésiens chapitre 1, verset 12. C'est-à-dire que Dieu nous a appelés à une chose bien plus glorieuse que simplement manger et boire. Il nous a appelés à un royaume. Il nous a appelés à vivre pour sa gloire. Il nous a appelés à vivre pour les œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que son nom soit connu. C'est cela la chose à laquelle il nous a appelés. Ce qui devrait nous inquiéter, c'est de glorifier Dieu dans nos vies, qu'il a racheté à un grand prix. Ce qui devrait nous préoccuper, ce sont ses œuvres et l'avancement de son royaume. Au verset 31, il dit « Cherchez plutôt le royaume de Dieu ». Et toutes ces choses vous seront données par-dessus, verset 31. Maintenant, regardez le ridicule de nos inquiétudes concernant nos besoins alimentaires et vestimentaires. À la lumière de cette vérité de notre vocation plus noble, est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant que Dieu ait envoyé son Fils dans le monde, conformément à ce qui avait été révélé aux prophètes de l'Ancien Testament des siècles en avance? Est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant que Dieu ait fait subir la mort de la croix à son Fils bien-aimé, puis qu'il ait manifesté sa puissance en le ressuscitant des morts, afin de nous donner le pardon et la vie éternelle, et qu'ensuite ils disent « Maintenant, accomplissez mes œuvres, glorifiez mon nom, si seulement vous arrivez à vous maintenir en vie en trouvant votre nourriture, et en trouvant des vêtements et un toit au-dessus de votre tête. » Vous voyez, ça n'a pas de sens. Si Dieu nous a appelés au royaume, à une vocation si glorieuse, mais il donnera aussi tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Ça n'a pas d'autre sens. C'est ridicule. Romains chapitre 8, verset 32, lui dit « Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui ?» Toute chose. Et pour illustrer ces propos et les égards de Dieu envers sa création, Jésus se sert de l'exemple des corbeaux au verset 24. Ils ne passent pas leur vie à chercher frénétiquement leur nourriture et à faire des réserves pour le lendemain. Ils vivent chaque heure dans la dépendance de Dieu. Le fait qu'ils ne sèment ni ne moissonnent, ça ne veut pas dire que les hommes doivent renoncer aux occupations séculières. Je ne vous demande pas d'envoyer votre démission à votre travail. Mais par cette remarque, Jésus veut simplement faire comprendre que Dieu connaît les besoins de ceux qu'il a créés et qu'il y pourvoira si nous marchons dans sa dépendance. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Si Dieu nourrit les corbeaux, à combien plus forte raison nourrira-t-il ceux qu'il a créés, sauvés par grâce et appelés à le servir? Les corbeaux, ce sont des animaux impurs. On ne les mange pas, mais Dieu les nourrit quand même. Et nous sommes ses enfants, ses rachetés. Il a donné son Fils pour nous avoir avec lui. Il nous a appelés. Et puis il nous a équipés pour le glorifier. Et nous, on penserait un instant que Dieu oublierait de pourvoir à notre vêtement et à la nourriture pour nos corps, comment pouvons-nous nous inquiéter encore? La deuxième pensée, c'est une prérogative divine. Comprendre la prérogative divine. Ça, c'est dans les versets 25 et 26. Il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Une coudée, c'est une coudée. 35 centimètres, de là à là. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? La semaine où Jonathan Léonard est décédé, j'ai eu l'occasion de le voir deux fois. Le lundi, on a mangé ensemble et prié. Je bénis le Seigneur de m'avoir donné ce temps avec Joe. Et puis, le lendemain, il était à l'étude biblique. Et puis il m'a dit, Vincent, est-ce que vous mettez des chaussures de sécurité et des casques sur le chantier de la nouvelle église? J'ai répondu que non, mais qu'on mettait des gants et des masques, des lunettes parfois, et surtout qu'on comptait sur Dieu pour nous garder dans ses travaux. Puis j'ai retrouvé un de ses textos qu'il nous avait envoyé au moment de notre départ en Côte d'Ivoire. Il disait, je ne peux pas être avec vous au moment à l'aéroport pour vous dire au revoir, alors je vous envoie quelques versets. Et il a envoyé les versets du psaume 121, les versets 5 à 7, il dit, l'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Et il avait ajouté dans son texto, cela ne vous dispense pas de prendre certaines précautions. Chapeau, produits anti-moustiques, etc. Mais c'est ce garçon, apparemment très sage et prudent, qui est parti auprès du Seigneur avant nous tous. Il avait achevé sa course à 23 ans. Il n'a pas pu ajouter une coudée à la durée de sa vie. Pas une coudée. Il y a 3 ans, nous avons envoyé une équipe missionnaire, une vingtaine de personnes en Bulgarie, avec 2 camionnettes 9 places, équipé de remorques, le tout chargé à mort. Ils ont voyagé durant 50 heures à l'aller, et puis dans les Carpates, les freins d'un des véhicules ont lâché. Pas dans la montée, hein, dans la descente. Et là, ils se sont fait une grande frayeur. Ils ont frôlé la mort, pour ainsi dire. Finalement, tout le monde est rentré sain et sauf. On prend des précautions, on réfléchit, on prévoit, mais c'est Dieu qui fait vivre et qui fait mourir. Et tous nos efforts ne peuvent y ajouter quoi que ce soit. C'est Dieu qui connaît le nombre de nos jours avant qu'aucun d'eux n'existe, psaume 139, verset 16. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris et personne ne délivre de ma main, Deutéronome 32, verset 39. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts, il en fait remonter. Ça, c'est 1 Samuel chapitre 2, verset 6. Sachez une chose, nous sommes immortels jusqu'à ce que Dieu dise, comme dans le psaume 90, verset 3, « Fils de l'homme, retournez à la poussière. » Job dit au chapitre 12, verset 10, « Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. » C'est Dieu qui tient et qui maintient le souffle de nos vies dans chacune de chaque, chacun de nos corps. C'est Dieu qui a cette prérogative. Dieu seul a cette prérogative. Je fais vivre et je fais mourir, dit l'Éternel. On s'inquiète pour une chose que nous ne contrôlons pas. Ce qui ne nous dispense pas, comme le disait Jonathan, de prendre soin de la vie que Dieu nous a donnée et de prendre toutes les mesures nécessaires. Mais nous ne pouvons pas prolonger nos jours par nos inquiétudes. Regardez le psaume 91, psaume 91, verset 1. À partir du verset 1, psaume 91. Magnifique psaume. Il dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Il y a eu des périodes en Europe où il y a eu des épidémies terribles. Et Charles Spurgeon, qui était pasteur à Londres, raconte que pendant une terrible épidémie, il ne se passait pas un jour où il devait faire des obsèques dans son église. Pas un jour où il était appelé à un chevet auprès d'un mourant. Et il a commencé à être saisi par une crainte. Il dit, mais il y a peu de gens qui fréquentent autant de mourants que moi, d'hommes et de femmes contagieuses que moi. Et puis un jour, il rentrait dans une boutique et le commerçant avait mis ce verset du psaume 91, verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et il a dit, Seigneur, je vais continuer à te servir de tout mon cœur. Je vais continuer à faire mon travail de pasteur. Je vais continuer à visiter ces mourants. Je vais continuer à visiter tous ceux qui sont malades. Et je vais continuer à faire les obsèques de tous ceux qui sont morts. Parce que c'est toi qui tiens ma vie. Et si tu veux me faire traverser cette épidémie sain et sauf, tu le feras. Si tu veux que je parte auprès de toi, tu le feras. Et je ne pourrai rien y ajouter. Qu'est-ce que nous craignons encore? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour préserver nos vies nous-mêmes? Je pense encore à Paul. Il arrive à Corinthe en Actes chapitre 18 pour prêcher l'évangile. Et les juifs de la ville s'opposent terriblement à lui avec violence. Et il est dans la crainte et Dieu parle à Paul et lui dit, versets 9 et 10, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point. » Car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et il y demeura 1 an et 6 mois enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Dieu, inquiétons-nous de faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance et confions-nous simplement dans notre Seigneur. Comment pouvons-nous nous inquiéter, nous qui ne pouvons pas prolonger nos jours d'une coudée? Et puis enfin, regardons une provision paternelle. Nous avons besoin de comprendre la provision paternelle de Dieu. Il dit au verset 32, j'aime ce verset, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ne crains point, petit troupeau. Ses disciples sont souvent peu nombreux et modestes. Ils se sentent fragiles, vulnérables. Jésus dit, ne crains point, petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Comment voyez-vous Dieu? Je pense que ça, c'est une vraie question pour régler ces craintes. Comment est-ce que vous voyez Dieu? Est-ce que vous l'imaginez toujours en colère contre les pécheurs? Pécheurs que nous sommes, même après avoir été pardonnés? Est-ce que vous le voyez frustré, insatisfait, comme un père dont les enfants désobéissent tout le temps, qui ne sait plus comment les discipliner? Est-ce que vous pensez que Dieu est comme ça? Est-ce que vous pensez qu'il est constamment en colère et qu'il n'a de cesse de voir et de pointer du doigt tous nos péchés, toutes nos fautes? Regardez ici, il est dit, votre Père a trouvé bon. Votre Père a trouvé bon. Et pour essayer de comprendre ce qu'il est en train de dire ici, dans le grec, le mot « a trouvé bon », c'est un verbe, « eudokeo ». « E » c'est bon, bien, bon. Et on le trouve 21 fois dans le Nouveau Testament. On le trouve en Luc chapitre 3, verset 22. Et c'est traduit, je vous lis le verset, Luc 3, 22. Je trouve ça magnifique. C'est au moment du baptême de Jésus. Il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles : « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Toute mon affection. En toi j'ai mis eudokeo. Je trouve bon, tout est bon en toi. Ailleurs, c'est traduit en qui mon âme a pris plaisir. Vous voyez la chose, Dieu a pris plaisir de nous donner le royaume. Ce qui lui plaît à lui, ce qui occupe son cœur et ses pensées, c'est qu'on puisse recevoir le royaume. Et toute l'œuvre de Jésus-Christ en témoigne. Il nous a donné le royaume parce que son Fils Jésus est mort. Dieu prend plaisir à nous donner le royaume. C'est la manifestation de son affection pour nous. Il prend plaisir à cela. Il est notre Père. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Il nous donne son royaume. Nous ayant donné ce qu'il y a de plus précieux dans l'univers. Il dit, verset 31, « Toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Il a pris plaisir à nous donner le royaume. Il va prendre plaisir à nous donner tout le reste, tout ce qui contribue pour nous conduire dans son royaume. Dieu ne se préoccupe pas simplement de votre âme. Il s'enquiert de votre être tout entier, corps, âme et esprit. L'âme, par contre, est éternelle. Et c'est ce qui fait sa splendeur, son prix, sa valeur. L'âme est éternelle et c'est pourquoi Jésus dit « Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme ?» La priorité est sur notre âme. Mais si Dieu a pourvu aux besoins de notre âme éternelle pour que vous connaissiez son salut, il pourvoira aussi aux besoins de vos corps. C'est sûr. Il dit au verset 30, « Votre Père sait de quoi vous avez besoin. » Dieu sait de quoi nous avons besoin. Il est notre Père. « Pourquoi vous inquiétez ? Votre Père sait que vous en avez besoin. » Il le sait. Et parce que son plaisir, sa joie, c'est d'agir en père qui pourvoit aux besoins de ses enfants, alors il prendra soin de chacun de vous. Et ici, je trouve que dans ce verset 32, Jésus multiplie les images. Il se présente comme notre père. Il se présente aussi comme le roi qui nous donnera le royaume. Et puis, il se présente aussi comme notre bon berger, puisqu'il dit « Ne crains point, petit troupeau. » Petit troupeau fragile, vulnérable, peu nombreux, modeste. mais troupeaux du bon berger. Et ça, ça fait la différence. Et c'est dans le caractère de Dieu de prendre soin des faibles. Partout dans les Écritures, on voit cela. Dieu prend soin des faibles. Il dit, vous sentez petit et misérable, fragile, vulnérable. Mais la gloire de Dieu, notre Père, c'est de prendre justement soin de tous ceux qui peuvent être fragiles et vulnérables. Il porte sur eux son attention et sa protection. Dans le psaume 23, il est écrit « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Ne crains rien, petit troupeau. L'Éternel est ton berger. Vous ne manquerez de rien. De rien. En Jean 10, Jésus dit « Je suis le bon berger. » Les mercenaires, eux, dès qu'ils voient le danger, ils prennent la fuite. Dès qu'ils voient les problèmes, hop, il n'y a plus personne. Mais Jésus dit, moi je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Je donne ma vie pour mes brebis. Et c'est ce que Dieu a manifesté. Il a donné, livré sa vie pour ses brebis, pour nous. Il efface nos transgressions. Il efface nos péchés. Comment pouvons-nous nous inquiéter encore? Soit on est dans l'incompréhension, soit on est dans l'incrédulité. Si nous comprenons la vocation noble à laquelle il nous a appelés, de le glorifier et de vivre pour sa gloire et pour les œuvres qu'il a préparées d'avance, alors nous savons aussi qu'il pourvoira pour qu'on puisse accomplir toutes ces choses. Si nous comprenons que la prérogative divine, lui seul, connaît le nombre de nos jours. Et ce qui doit nous inquiéter, c'est de chercher le royaume, simplement, jour après jour. Si nous comprenons sa provision paternelle, bienveillante, le cœur de Père et qu'il veut manifester pour chacun d'entre nous, alors nous serons délivrés de l'angoisse, de l'inquiétude, de la crainte, du souci. Oh, que ces vérités pénètrent nos cœurs pour chasser toute crainte, toute angoisse, toute inquiétude et pour qu'il vienne y déposer sa paix et son repos. Déchargez-vous sur le Seigneur de tout ce qui peut oppresser vos cœurs, de toutes les préoccupations qui vous angoissent. Laissez-les aux pieds de votre Sauveur.